Vous écoutez
RMC.
RMC.
Je veux manger les légumes de mon jardin, recueillir l'huile de mes oliviers, gober les œufs frais de mes poules.
6h-7h.
Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un légume pareil?
Votre jardin.
Tomates, pommes de terre, cerfeuil, ce sera facile. Une heure de travail par jour.
Un potager, en somme.
Exactement.
François Sorel.
Patrick Mulan.
Vous poussé, mes petits légumes clair de lune.
Kevin le sait, c'est 5 fruits et légumes par jour au moins. Et ça se voit quand on voit sa mine superbe. On voit qu'il respecte cet engagement. Mon cher Patrick.
Oui.
Ça va faire plaisir à Christian Riquet, votre sujet sur les légumes, là, je pense.
Oui, mais là, on va pas parler de la même chose que ce que nous dit.
Oui, mais tout l'écosystème légumes l'intéresse.
Voilà,
vous savez.
Ben là, on va parler Christian. Un peu plus, oui, histoire, peut-être anecdote, etc.
Alors, pour bien cerner ce sujet, quelles sont les définitions que l'on peut donner au mot légumes?
Alors, c'est vrai que vous dites les définitions et vous avez raison. Si vous êtes botaniste, vous allez dire que le légume, c'est le fruit des plantes de la famille des légumineuses, qu'on appelle aujourd'hui les fabacées, c'est-à-dire une gousse. Alors donc, haricots, pois, fèves. Si vous consultez le dictionnaire, vous allez avoir une définition qui ressemble un peu à ça. Un légume est la plante ou une partie comestible d'une espèce potagère.
Et oui, c'est ça. Alors, la question est donc, qu'est-ce qu'une espèce potagère?
Alors, une espèce potagère, c'est une plante qui sert à faire le potage et qu'on cultive dans le potager.
Eh oui.
Vous voyez un petit peu les liens étymologiques qui sont intéressants. Alors, c'est assez bizarre aussi de savoir que dans le langage de la cuisine, donc ce langage culinaire, le mot légume s'oppose à celui de fruit. Parce que le légume, c'est plutôt ce que l'on mange salé, alors que le fruit, c'est ce que l'on mange plutôt en dessert. Mais il faut savoir que pour les botanistes, beaucoup de légumes sont des fruits. Mmh. Par exemple, la tomate, le poivron, l'aubergine, par exemple, ce sont des fruits. Et on a aussi une autre notion un peu différente, par exemple, dans les plantes potagères, ce sont les condimentaires. Les condimentaires qui viennent simplement en assaisonnement. Et tout ce monde-là se cultive au potager.
Voilà, ne pas confondre vieil ami et potager, ça n'a rien à voir. Hein. Faites attention, s'il vous plaît. Quelles sont les parties de la plante que l'on consomme comme légumes, Patrick?
On va dire pratiquement toutes les parties d'un végétal arrivent un jour ou l'autre dans notre assiette. Si on prend depuis le bas jusqu'en haut, les racines, vous avez carottes, betteraves, radis, navets, panais, salsifis, ça ce sont des racines. Les tubercules sont les pommes de terre, le topinambour, la patate douce, des choses un peu moins connues comme le crône ou le cas du Pérou, par exemple, ou la poire de terre. On mange des bulbes aussi, ceux des oignons, de l'ail, de l'échalote. On mange des tiges qui n'en sont pas, celles du poireau, du céleri rave, du chou rave, par exemple, qui sont des tiges qui ont plutôt gonflé, qui ont grossi. Des toutes jeunes tiges, les asperges, on parlait de bambou, mais vous savez, le bambou est comestible et on mange les toutes jeunes tiges qu'on appelle les turions quand ça sort de terre. Le cœur de palmier, c'est aussi l'intérieur de la tige. On mange le pétiole des feuilles chez la bête ou poirée, chez le céleri branche, chez le fenouil. Le fenouil, les pétioles se sont resserrés les uns contre les autres pour faire une sorte de bulbe, mais ce sont des pétioles. La rhubarbe aussi, c'est un pétiole. On mange bien sûr des feuilles, les salades, les choux, les endives, les épinards, l'oseille, même le pissenlit sont des feuilles. Une des particularités bizarroïdes, par exemple, c'est l'artichaut, c'est un bouton floral. Mm-hmm. Il ne faut pas qu'il soit ouvert. L'artichaut est inconsommable lorsque la fleur est ouverte. Il faut vraiment que la fleur soit simplement en bouton. En revanche, la fleur elle-même, on en mange avec le chou-fleur, comme son nom l'indique, le brocoli. Alors, ce n'est pas exactement une fleur. C'est-à-dire, c'est le méristème, c'est-à-dire le tissu de croissance au niveau de la fleur qui s'est hypertrophié. C'est un monstre, tout à fait. Les fruits, on en a parlé, mais dans les fruits, il y a des choses bizarres que vous attendriez peut-être pas à entendre. Le haricot vert, par exemple, c'est un fruit.
C'est dingue, ça.
Oui, le pois mange-tout est un fruit, le gombo est un fruit. Bon.
L'avocat.
Bien sûr, l'avocat, la chayotte, l'aubergine, la courge. Et puis on terminera avec les graines, qui sont très très importantes dans notre alimentation, et ça, le docteur Rekia doit frétiller.
Là, il frétille dans sa voiture,
parce que
je pense.
Les pois, les fèves, les haricots secs, les lentilles et les pois chiches sont des graines.
Des graines, d'accord.
Vous voyez, on a fait le tour de l'ensemble du monde végétal.
C'est très large.
Très très large.
Et oui. À quand remonte cette notion de légumes, Patrick?
c'est extrêmement ancien. Quand l'homme est passé de l'état de chasseur-cueilleur au moment du néolithique, c'est-à-dire à peu près il y a 12 000 ans, aux prémices de l'agriculture, eh bien, à ce moment-là, on a commencé, on va dire, à domestiquer, entre guillemets, les végétaux, à savoir à faire une sélection en prenant à la fois ceux qui étaient les plus productifs, ceux qui étaient les meilleurs au goût, et donc, et qui correspondaient bien aux besoins. Et le mot légume lui-même est arrivé au XVIe siècle, puisqu'on l'a vu s'inscrire dans la langue française à partir de 1531.
Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a des légumes qui sont issus de la flore sauvage française que l'on consomme encore aujourd'hui. Ben et oui, pour certains qui sont encore à la mode.
Alors, le chou, même s'il a beaucoup évolué, le chou rave, le panais, alors le panais qui est vraiment une plante qu'on peut trouver sauvage encore aujourd'hui. Je disais les pissenlits tout à l'heure. Bien sûr, on peut. Moi, quand j'étais gamin, on allait récolter dans la nature des pissenlits jeunes et que l'on consommait. Le navet est français, la lentille. La carotte sauvage, alors la carotte sauvage, on la consomme plus, nous, on la donne aux lapins, mais on la fait évoluer parce que la carotte sauvage, la racine est blanche, comme le panais.
Quels sont les légumes les plus anciens encore consommés de nos jours ?
Alors, je vais encore faire plaisir à Christian Riquia. Il est sans doute, la lentille est peut-être le plus ancien des légumes, puisqu'on a trouvé en Iran des traces de lentilles cultivées à peu près 8 à 9 000 ans avant notre ère, ça veut dire il y a 10 000 ans, vraiment au début donc de cette domestication du néolithique dont je parlais tout à l'heure. Alors, quand on traverse l'Atlantique, à cette époque-là, la pomme de terre a commencé à être vraiment généralisée par les Amérindiens du néolithique, et puis sans doute aussi l'oignon. L'oignon est un très 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 ancien légume. On en a vu beaucoup de représentations, notamment sur les tombes de l'ancienne Égypte, et à peu près 2000 à 2500 ans avant notre ère. Ça veut dire donc déjà 4000 à 4500 ans.
Est-ce qu'on peut considérer que certains légumes sont des plantes artificielles, Patrick ?
Alors d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, très très peu de légumes que l'on consomme maintenant ressemblent à la plante d'origine. À la fin des sélections depuis des siècles que certains ont subi, ça n'a strictement rien à voir avec la plante d'origine. Si vous prenez par exemple la tomate sauvage, c'est une espèce de plante rampante qui fait des toutes petites boules de graines, de fruits, pardon, qui ont la taille d'un ongle à peu près. On a ça aujourd'hui.
Donc avec il a fallu que l'homme la façonne pour arriver aujourd'hui la tomate qu'on connaît.
Alors, on a à la fois sélectionné et après hybridé, c'est-à-dire qu'en fait, en croisant des espèces voisines d'une même plante, on a pu obtenir des améliorations. Il y a des choses aussi qui sont très très étonnantes. L'endive est vraiment un légume qui n'existe pas. Vous allez dire, il est fêlé, mais non. C'est une plante qui a été découverte totalement par hasard vers 1850 par un Belge qui s'appelait Monsieur Brézier, et il cultivait des chicorées sauvages.
D'où les endives, Brézier, ou ça n'a rien à voir?
Brézier, non.
Non, c'est pas ça.
Non, c'est Brézier, lui.
Pardon.
Et il cultivait des endives sauvages, et par inadvertance, il les a recouvertes de terreau. Et il s'est rendu compte que ça formait une sorte de petite pomme blanchâtre qu'il s'est mis petit à petit à améliorer par des techniques culturales de forçage. Et donc, c'est pas une plante qui, naturellement, fabrique cette pomme qu'on appelle un chicon dans le Nord et qui est tout à fait particulière. C'est un peu la même chose aussi avec le chou de Bruxelles, qui est une mutation qui a été provoquée par des agriculteurs belges avec des techniques culturales.
Bon allez Patrick, on va parler maintenant de la pomme de terre qui est incontournable dans nos assiettes et qu'on adore tous. Il a fallu beaucoup d'astuces pour faire accepter ce légume par les Français.
Oui, alors ça c'est drôle parce que la pomme de terre fait partie de la famille des solanacées. Donc on l'appelait la morelle, et on a des morelles, donc notamment les daturas, dans notre pays, qui sont non seulement toxiques, mais quasiment mortelles. Donc lorsque cette plante a été rapportée par les conquistadors au XVIe siècle, puisque c'est un légume qui vient d'Amérique du Sud, la pomme de terre, eh bien, elle a d'abord été cultivée par les botanistes, et puis qui se sont demandé si elle n'aurait pas des propriétés médicinales. Petit à petit, on a commencé à la consommer, et en France, on n'en mangeait pas. Et il y a un arrêt, d'ailleurs, du Parlement de Paris en 1748, qui interdisait la culture dans le nord de la France. Donc il faut quand même se dire à quel point cette plante, elle s'était pas gagnée. Et puis on doit à Antoine Parmentier qui avait été prisonnier en Allemagne, où on mangeait déjà couramment des pommes de terre, d'avoir vraiment vulgarisé la pomme de terre. Alors comment il a fait ? Eh bien, on était en 1785 et il y avait une sécheresse invraisemblable qui ravageait les régions françaises. Les gens étaient en disette et à l'époque, Louis XVI disait qu'il fallait augmenter les problèmes de, enfin pas les problèmes, les possibilités de subsistance. Alors, Parmentier était voir le roi et lui a dit « Il faut qu'on consomme des pommes de terre, vous allez voir, c'est très très bien. » Comment faire consommer une plante que les gens ne veulent pas ? Eh bien, il décide tout simplement, l'année suivante, en 1786, de faire monter la garde autour de cultures de pommes de terre, qu'il a fait autour de Paris, et la garde, curieusement, disparaît la nuit. Mmh. Les gardes s'en vont. Donc les gens se disent quand même, si on garde ces cultures-là, c'est doit être bien, chose. Etc. Et ils viennent piquer des pommes de terre pendant la nuit. Évidemment, ouais. Personne ne dit rien, puisque c'était volontaire. Et du coup, ils trouvent que c'est pas mal, ils se nourrissent, et puis le lancement de la pomme de terre avait été fait. Et donc, Louis XVI dira à Parmentier, la France vous remerciera un jour d'avoir inventé le pain des pauvres.
Et on consommait comment la pomme de terre à l'époque ?
Je pense qu'on la consommait bouillie, comme la plupart des légumes encore à cette époque-là. Alors je voulais quand même dire que cette idée de ce sujet m'a été soufflée par deux livres qui viennent de sortir et qui sont quand même très intéressants sur le même sujet. Hein, et donc qui sont... que je les retrouve. Voilà, petite et grande histoire des légumes d'Éric Birlouet chez Caé et étonnante histoire de légumes et de fines herbes de Bertrand Dumont aux éditions Multimonde. Donc c'est vraiment des livres dans lesquels il y a plein d'anecdotes, il y a plein de choses que l'on ne connaît pas forcément sur les légumes et je crois que c'est un monde très très passionnant.
7h20, Patrick, on revient dans un instant avec la météo du jardinier et vos questions. Nous aurons Michel qui est à Clermont-Ferrand. Il va nous parler de sa haie qui visiblement n'est pas très en forme. Et puis à tout moment, le 32-16, l'appli RMC Direct Studio. Si vous voulez poser vos questions, n'hésitez pas via Direct Studio, votre numéro de téléphone s'il vous plaît. Ça nous facilite la vie et ça vous permettra peut-être de passer à l'antenne dans quelques minutes. À tout de suite.
RMC Football. Samedi à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre ? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine, samedi à Montpellier avec RMC.